La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
À 7h13, les voix de l'économie. François Geffrier, vous recevez ce matin le directeur de la rédaction du magazine Investir.
Bonjour François Meunier.
Bonjour.
Et bienvenue sur Radio Classique. Alors vous nous l'aviez promis, vous avez enquêté avec les équipes d'Investir sur l'homme qui est présent dans tous les dossiers chauds du moment, Daniel Kretinsky. On connaît peu de choses de lui, il ne donne jamais l'interview. Pourtant, c'est le nouveau propriétaire du groupe Casino qu'il va falloir redresser. C'est le premier actionnaire de Fnac Darty. Je vais arrêter, vous allez continuer parce qu'il y a les médias, il y a la logistique. Qui est-il, Daniel Kretinsky ?
Eh bien, il a 48 ans, une fortune de 9 milliards d'euros. Il était quasiment inconnu du grand public il y a 10 ans. Et aujourd'hui, Daniel Kretinsky, un milliardaire tchèque, est devenu incontournable dans le capitalisme français. Il est né et il a vécu dans son adolescence en Tchécoslovaquie, qui était encore à l'époque sous le joug de l'URSS. Il effectua ensuite des études de droit, en fait en marchant finalement dans les pas de sa maman qui était juriste, plutôt que dans ceux de son père, professeur d'informatique. Et c'est lors d'un échange d'étudiants de droit avec la faculté de droit de Dijon qu'il se met à aimer la France et les vins de Bourgogne. Et d'ailleurs, il parle très bien la langue de Molière. Et après ses études de juriste, il rentre dans un fonds d'investissement en 1999, un fonds d'investissement slovaque basé à Prague. Et dans ce fonds d'investissement, il rentre bien sûr en tant que juriste, il gravit tous les échelons.
C'est allé quand même très vite, parce que là, 99, on arrive en 2024, 25 ans après, 9 milliards d'euros de fortune.
Absolument. Et dans ce fonds d'investissement, il commence à faire des jolis coups dans le domaine de l'énergie. Tout de suite après, il crée son entreprise d'énergie et son grand coup, c'est 2010. En 2010, il met la main sur 49% d'un gazoduc qui s'appelle Eustream, qui va de l'Ukraine à l'Autriche en passant par la Slovaquie. Et ce gazoduc, eh bien, il fournit des cash flows bien nourris et surtout réguliers. Bien sûr, ça s'est un petit peu tari depuis la guerre en Ukraine, mais avec ce cash flow, il va créer un empire dans le domaine de l'énergie. C'est aujourd'hui le cinquième groupe d'énergie en Europe, à peu près 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 4,5 milliards d'excédents bruts d'exploitation, et avec ses cash flows, eh bien, il va se constituer une galaxie dans le domaine de l'énergie. Aujourd'hui, il est à la tête de 11 centrales à charbon réparties entre l'Italie, l'Allemagne, la Tchéquie, il y en a même une en France, oui. Deux centrales nucléaires en Slovaquie, des dizaines de sites d'énergie renouvelable, des centrales à gaz, des réseaux de chaleur, des mines de charbon. Oui. Cet empire.
Vous parlez de galaxies et c'est intéressant. Souvent, les galaxies, elles ont un nom. Alors que là, pour Daniel Kretinsky, on parle de lui, mais on parle jamais du nom de son groupe ou de ses investissements.
Oui, parce que l'essentiel de l'énergie est plutôt en Europe centrale et donc ça intéresse peut-être un peu moins les médias français. Son groupe s'appelle EPH, mais c'est vrai que
c'est totalement inconnu.
Ça parle pas vraiment
au
grand public.
Finalement, les investissements aujourd'hui, après sortie de l'énergie, les investissements de Daniel Kretinsky.
Ces investissements dans les médias, par exemple, on fait beaucoup plus de bruit. Lorsqu'il a pris 5% de TF1, 100% de Marianne, 100% de Elle, Télé 7 jours, il a été bien sûr candidat au rachat malheureux de M6, mais pour l'instant, c'est pas encore fait, hein, ça va être relancé dans quelques années. Il a mis la main sur l'édition, 100% d'Editis, qui édite Robert Laffont, Plon, Presse de la Cité, Perrin, Bordas, Belfond, Le Robert, et bien sûr, dans la distribution, vous en avez parlé, mais en fait, on a le sentiment qu'il investit un peu partout, mais il a une vraie méthode.
Et sa méthode. Alors, quelle est la méthode Kretinsky?
Sa méthode, c'est d'être plutôt bien accueilli là où il va. Il a pas le profil de Vincent Bolloré qui est prêt à faire des OPA hostiles. Tout le monde se souvient encore en 97-98 lorsqu'il a fait son bras de fer avec Martin Bouygues, lorsqu'il est rentré avec fracas dans le capital du groupe Bouygues. Lui, c'est pas du tout cette approche-là. Il est pas non plus dans une approche à la Patrick Drahi avec des montages compliqués. Patrick Drahi qui a fait fortune dans les télécoms en utilisant l'effet de levier de la dette. Lui, pas du tout. Il avance prudemment. Et sa méthode, eh bien, c'est finalement de rentrer au capital en prenant quelques pourcents pour voir, et après, il monte tout doucement au capital de l'entreprise. C'est ce qu'il a fait avec Fnac Darty, 5% pour voir en 2022, puis il est passé à 20%, 25% en 2023, et maintenant il est à 29,9% de Fnac Darty, donc proche de lancer une OPA.
Oui, il est resté juste sous les 30%, c'est le seuil au-delà duquel on est obligé de déclencher une OPA.
Absolument, et il a refait la même histoire avec Casino. 5% en 2020, puis il a doublé sa participation, et maintenant il a 53% de Casino. Donc il avance tout doucement, prudemment, et on voit quand même que il a fait une sorte de puzzle dans le domaine de la distribution, parce que en France, il a Fnac, Darty et Casino, il a 45% de Metro en Allemagne, il a 50% d'Eroski et de Caprabo en Espagne, il a 10% de Sainsbury en Grande-Bretagne, donc on voit qu'il a un petit peu il agit de façon puzzle.
Mais ce qui est quand même fou, c'est ce côté puzzle. C'est-à-dire que vous, on peut passer, là, on le voit, le temps qu'on prend simplement à lister toutes ces activités, toutes ces acquisitions est important. Mais la question, c'est la vision d'ensemble. Est-ce que ce puzzle, à un moment donné, est rassemblé? Est-ce que Fnac Darty va travailler avec Casino, avec Sainsbury, avec Metro?
Eh bien là, vous posez la bonne question. On ne sait pas encore aujourd'hui, à ce stade, si c'est un financier ou un industriel. Et là, on va probablement voir si ce puzzle se rassemble. Est-ce que, par exemple, il va utiliser... parce que comme il possède Casino, dans ce Casino, il y a des pépites. Il y a Cdiscount, qui est un champion de l'e-commerce. Est-ce que ce Cdiscount va être rapproché de Fnac Darty pour muscler le côté site et d'e-commerce de Fnac Darty? Donc, il y a la possibilité de rassembler ce puzzle. Et il a fait la même chose dans la logistique. Dans la logistique, il a 27% de Royal Mail Distribution, qui s'occupe de la distribution du courrier et des colis en Grande-Bretagne. Il a 30% de Post NL aux Pays-Bas, qui fait le même métier. Il a 12% de Cadian en France, qui est le numéro 2 mondial des machines de traitement et de courrier. Donc, on voit qu'il investit dans des secteurs qui sont plutôt matures, où il y a peu de croissance, mais ce sont des secteurs qu'on appelle dans le jargon boursier « value », c'est-à-dire qu'ils sont pas très chers, mais qui dégagent des cash flows. Donc, pour l'instant, on peut se dire, il investit dans des sociétés peut-être sous-valorisées. Maintenant, est-ce qu'il va créer de la valeur en trouvant un repreneur pour les vendre plus cher, ou plutôt bâtir un groupe industriel? Et ça, on aura la réponse dans quelques années.
Mais la question se pose au-delà de peu valoriser ou je ne sais plus quel était votre terme sur la value que dégagent certains de ces actifs, mais les centrales à charbon, par exemple, on se dit que ce n'est pas forcément l'avenir. Lui, il y croit. Et puis, il est intervenu aussi dans le dossier Atos. Alors, pour l'instant, il a refermé la porte, mais on imagine que son ombre est quand même un petit peu dans les parages du dossier Atos, que personne ne veut reprendre à part son premier actionnaire OnePoint.
Oui, le dossier Atos, il n'est pas tout à fait encore fermé, parce que d'abord, Atos est dans une impasse. Il faut trouver une solution vis-à-vis des créanciers et vis-à-vis des actifs stratégiques. Et on sait que, par exemple, l'État étudie le dossier pour savoir s'il ne va pas nationaliser la partie cybersécurité. Est-ce que lui, il est plutôt intéressé par l'infogérance?
Oui, par les infrastructures. C'est un peu la partie centrale à charbon d'Atos, quoi. C'est le vieux métier.
Voilà, il aime les activités, j'ai envie de dire, historiques, les activités anciennes, mais des activités qui dégagent finalement peut-être pas beaucoup de croissance, mais beaucoup de cash flow. Et c'est avec ce cash flow qu'il étend son empire, il étend son influence. Donc l'idée,
c'est-à-dire que les marchés n'y croient pas, mais en fait, il y a un compte de résultats qui délivre.
Il y a un compte de résultats qui délivre. Ce sont des activités qui sont rentables. Et lui, il estime que en manageant peut-être mieux ces entreprises, en mettant des hommes à lui à la tête de ces entreprises, il peut créer de la valeur. Et surtout, peut-être qu'à un moment donné, on va découvrir que ces différents actifs qui n'ont pas forcément tous des liens ensemble, eh bien, on peut faire et raconter une belle histoire en les regroupant.
C'est passionnant. En tout cas, s'il vous a écouté ce matin, et j'imagine que oui, il est le bienvenu à cette place, dans ce studio de Radio Classique, pour venir nous détailler un petit peu sa stratégie, puisque vous nous dites, et c'est effectivement assez connu, qu'il est francophile, et forcément, avec tout ce qu'il a acheté, aussi francophone. Merci beaucoup, François Monnier. L'enquête sur Daniel Kretinsky est à lire demain dans le magazine Investir, qui paraît tous les samedis. Excellent magazine.
Donc, si vous connaissez Daniel Kretinsky, vous lui passez l'invitation de François Geffrier, qui revient lundi à la tête du 7-9, car je prends quelques jours de congé.
Bravo.
Bon courage, François. C'est Charles Bonner qui vous remplacera dans deux minutes. David Doucan et les coulisses de la politique, ou comment Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, entend peser en 2027. Radio Classique, 7h20.